Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur les ondes de Radio Grand Ciel, cet enregistrement de Rue Mérigot à Dreux pour l'écho de ma commune, émission qui est soutenue par le Conseil Général d'Eure-et-Loire. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce numéro qui est consacré à Madame le sénateur Chantal de Seine. Bonjour. Sénateur, bonjour.
Bonjour.
Je suis absolument ravie de vous retrouver dans nos studios. Nous allons continuer à parler, comme la dernière fois, de cette chambre haute où vous siégez.
Oui.
J'ai beaucoup aimé le titre, la chambre haute.
Oui.
Je ne sais pas de quoi ça vient. C'est la chambre haute, alors que l'Assemblée nationale...
Non, on va pas la qualifier.
On va pas la qualifier de chambre basse.
Voilà. C'est la chambre haute ou la chambre des sages.
Oui, ça c'est pas mal non plus. Eh bien, Madame le Sage, c'est superbe. Donc, vous siégez au Sénat depuis déjà quelque temps. Vous n'avez pas abandonné pour autant votre mandat de maire de Serville, bien sûr, et également de vice-présidente de l'agglomération de Dreux. Vous étiez précédemment présidente du Sivon, plaine du Drouet.
Du Drouet-Est, oui.
C'était la plaine.
Oui, alors en fait, c'est un syndicat qui a pour vocation de gérer les affaires scolaires. C'est un syndicat composé de 5 communes, Marchezais, Serville, Brouet, La Chapelle-Forainvilliers et Germainville.
Donc ça vous permettait de mettre en commun toutes vos forces.
Voilà, pour la scolarisation de nos enfants, donc on a actuellement 200 enfants scolarisés sur le Sivom, qui sont originaires de ces 5 communes et qui se répartissent dans les différentes écoles. Donc à Germainville, c'est la maternelle, à Brouet, ça va du CP au CM, et puis à Serville, nous avons les CM1 et CM2. Ça permettait de maintenir les écoles dans les communes.
C'est très important.
C'est important. Et ça permettait aussi d'assurer la qualité de l'enseignement, puisque auparavant, dans ces communes, nous avions des classes uniques. Maintenant, nous avons des classes de niveau, avec une meilleure organisation et des bâtiments plus adaptés aux exigences de l'éducation.
Ça doit être très difficile de faire une classe unique. Il y a quand même une antinomie. C'est compliqué, certainement.
Alors, certaines années, on a des classes doubles, mais pour la rentrée 2015, toutes les classes sont uniques. Mm-hmm. Enfin, uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un niveau par classe, une classe de CP pure, une classe de CE1, etc. etc.
Alors donc, vous avez également le transport scolaire.
Donc on a des circuits scolaires qui assurent le ramassage et déposent les enfants dans leur école respective.
Et pour les cantines, ça se passe comment?
Et pour les cantines, alors c'est assuré aussi par le Sivom, et les enfants trouvent la restauration sur leur lieu de scolarisation, dans leurs écoles. Il n'y a pas de déplacement le midi. Ils mangent sur place avec une restauration en liaison froide. Ça veut dire qu'on ne fabrique plus sur place, qu'on achète les repas qui sont livrés froids et qui sont remis en température l'enceinte de l'école.
Je comprends. Est-ce que les parents viennent de temps en temps goûter les repas?
Alors, les élus, oui.
Ah, les vous parents, faites la tournée des popotes.
Oui. Les parents élus, à leur demande, on peut les recevoir dans nos réfectoires. Par contre, c'est pas à table ouverte parce
que. Oui, bah bien sûr.
Voilà, c'est pas envisageable, ça désorganiserait le service, etc.
Naturellement.
Mais bien sûr, et en particulier, les parents élus peuvent, à leur demande, venir se rendre compte sur place et de la qualité du repas et de la qualité du service.
J'imagine qu'avec vos responsabilités, fût-ce seulement en tant que maire, vous êtes très entouré. Et très bien entouré. Vous avez quelques personnes qui vous d'abord transmettent les appels téléphoniques à la mairie. J'en ai fait moi-même l'expérience. Ça, c'est très efficace.
Elle est particulièrement efficace. J'ai une secrétaire de mairie qui est particulièrement efficace et qui traite pratiquement toutes les urgences dans l'instant. Alors,
elle vous prépare les dossiers,
Non, alors, il faut dissocier ce qui est la mairie de ce qui est du Sénat. Alors, je voulais préciser quand même que je ne suis plus présidente du CIVOM de la Plaine du Drouet-Est.
Mais vice-présidente de l'agglomération de Dreux.
Toujours vice-présidente de l'agglomération, parce que c'était difficile de concilier le tout, que les affaires scolaires, c'est quand même quelque chose d'exigeant, que ça suppose d'être très présent et présent sur le terrain. Et donc, j'ai démissionné et c'est Madame Cécile Lamy, maire de la chapelle Forainvilliers, qui a repris le flambeau. Voilà. Alors, au niveau personnel, alors au niveau de la mairie, j'ai une secrétaire de mairie à temps partiel qui gère toutes les affaires courantes et qui applique les décisions qui ont été prises par le conseil municipal et qui tâche de faire fonctionner les choses. Mais elle est aussi un très bon relais pour les gens qui cherchent à me joindre et qui n'ont pas mes coordonnées, parce qu'ils appellent en mairie de Serville, et donc elle me transmet en me disant « Pouvez-vous rappeler rapidement Madame Guimard, c'est urgent ?» en me communiquant votre numéro de téléphone. Et puis sur Paris, j'ai une assistante parlementaire, une juriste. Alors je vais employer un terme qui n'est pas très joli, mais qui est très rural, qui me débroussaille un petit peu les textes de loi.
En tout cas, je ne sais pas si c'est joli, mais ça doit être très efficace.
Mais c'est efficace. Donc elle fait ça essentiellement. Elle est,
c'est important parce
qu'elle a son bureau au Sénat. Et puis, j'ai localement deux assistantes parlementaires à temps partiel.
La juriste, j'imagine que c'est très important parce que nul n'est censé ignorer la loi. J'imagine qu'un sénateur non plus. Donc, ça peut être parfois très compliqué.
C'est très compliqué. Moi, je n'ai pas de formation de juriste. Et lire un texte de loi, c'est quand même assez ardu et imbuvable.
Peut-être pour s'endormir le soir, après tout, pourquoi
pas.
Oh
oui, ça doit être parfait.
Enfin, c'est pas le but de l'opération non plus,
non.
C'est sûr que... Alors évidemment, vous joignez à certains de vos collègues qui font des propositions de loi. J'ai vu que vous étiez dans une proposition de loi contre la fraude, toute fraude dans les transports.
Oui.
Et que vous partagiez ceci avec Éric Doliger, qui est également...
Sénateur du Loiret.
Ancien Drouet.
Ancien Drouet, oui, et ancien président du Conseil général à l'époque, du Loiret.
Et il n'est plus président du Conseil général actuellement.
Non, en fait, il n'a pas, aux dernières élections, il n'était pas candidat, il ne souhaitait pas renouveler son mandat et passer la main.
Avec lui, vous partagez l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec les mineurs après une condamnation pour des agressions sexuelles sur mineurs. Oui. Alors ça, je dois dire que ça me paraît aller de soi.
Mais moi aussi, il me semblait que ça allait de soi. Toute personne qui a été condamnée pour des agressions sur mineurs ne devrait plus. Alors, je sais bien que une fois que les auteurs ont été jugés, éventuellement condamnés, pour certains ont purgé une peine. Voilà, on pourrait penser qu'ils ont payé leur dette à la société et que d'une certaine manière, ils ont porté la réparation. Mais quand même, c'est extrêmement grave et on n'est pas à l'abri de récidives. Alors, c'est pas leur faire un procès d'intention, mais on sait qu'il y a des populations ou des auteurs qui restent des personnes fragiles, qui ont besoin d'encadrement et de soins, et qu'il est peut-être pas inutile de les éloigner des jeunes enfants.
Ça, c'était pour l'interdiction d'exercer. La fraude des transports, qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça, en fait, c'est à l'initiative de Valérie Pécresse, entre autres, qui a constaté, mais d'autres aussi, qu'en particulier dans les transports parisiens, il y avait un nombre considérable de fraudeurs. Et que les moyens qui sont actuellement à la disposition des pouvoirs publics ou des transports n'était pas suffisant. Donc c'était de sanctionner plus sévèrement les fraudeurs.
Remettre des contrôleurs, par exemple.
Par exemple, il y a certains fraudeurs qui prennent le risque. Alors c'est vrai pour le métro, mais c'est vrai aussi pour le train. Des usagers quotidiens de la SNCF qui prennent le risque de ne pas payer leurs abonnements ou leurs transports parce qu'ils savent qu'ils vont être contrôlés une fois toutes les trois semaines.
Et puis qui ont fait le calcul.
Et qui ont fait le calcul. Et donc la fois où ils sont contrôlés, ils vont payer leur amende, mais ils seront encore gagnants.
Ça peut être un manque à gagner considérable pour toutes les compagnies de transport, ça.
Oui, forcément.
Ouais, mais à moins de mettre des contrôleurs plus souvent, c'est sûr que c'est...
Et puis...
Et plus nombreux.
Et puis éduquer. Éduquer parce qu'on utilise un service, mais le service, il a un coût. C'est pas forcément, c'est pas la société, c'est pas la collectivité qui le supporte.
Vous écoutez Radio Grand Ciel sur 97.7 à Dreux.
Comment s'organisent vos journées au Sénat ? Est-ce que vous avez d'abord une présence dans l'hémicycle, j'imagine,
oui,
qui est splendide ? C'est quelque chose de très extraordinaire comme endroit.
Oui.
Votre présence dans les commissions diverses dans lesquelles vous êtes ?
Alors, les commissions se réunissent en règle générale le mercredi matin. C'est en tout cas le cas pour la commission des affaires sociales, et puis elle se réunit autant que de besoin sur la semaine. Hein. Alors généralement, c'est calé entre le mardi matin et le jeudi soir. Mais,
ah oui, parce que vous appartenez à plusieurs commissions, donc il faut
voilà.
Pouvoir se... Vous
avez, mais
vous
ça
n'avez
peut arriver
pas le don d'ubiquité, ça vous aiderait, ça vous
aiderait
pas bien.
Pas encore.
Ça serait bien, ça.
Donc, les commissions sont obligatoires. Vous savez qu'on a voté une résolution qui est portée par Gérard Larcher à son initiative pour réorganiser les travaux du Sénat. Et il y a un volet qui concerne l'assiduité au Sénat. Donc, assiduité dans les commissions, assiduité en hémicycle et assiduité aux questions au gouvernement. Avec à la clé, pour ceux qui ne respecteraient pas ces nouvelles dispositions, des sanctions et des sanctions financières. C'est généralement ce qui marche le mieux.
Ça va être les jetons de présence.
Non,
vous allez
non,
pointer,
non,
vous allez
non,
rentrer.
Non, c'est pas à ce point-là quand même.
Non, naturellement.
Et dans les présences en hémicycle, alors normalement, quand c'est un texte de la commission qui est débattu en hémicycle, les membres de la commission devraient être présents.
Ça paraît être
logique. Ça paraît logique quand même. Et puis, en tout cas, au sein du groupe des Républicains, mais c'est vrai aussi pour les autres groupes, nous avons des permanences. Et comme quand nous sommes de permanence, quel que soit le texte, nous devons siéger, donc être en hémicycle. Ça commence généralement le mardi après-midi et on est de permanence, y compris la nuit. Donc on peut terminer à minuit, 1h, 2h du matin.
Vous dormez sur place ?
Ah, dans ces cas-là, je dors sur
oui.
place, pas dans l'hémicycle, mais dans un hôtel à proximité du
couchettes.
Sénat. Pas encore.
Et est-ce qu'il y a des appartements pour les sénateurs à l'intérieur, tout au moins des bureaux où vous pouvez
alors,
éventuellement vous reposer?
Alors,
si
nous
la
avons des bureaux, qui sont partagés avec nos assistants parlementaires. Moi, j'ai une chance extraordinaire parce que je suis juste en face du Sénat, j'ai juste à traverser la rue de Vaugirard.
C'est bien ça.
Certains de mes collègues sont un petit peu plus loin. Mais pas beaucoup plus loin, ils sont rue Bonaparte. Et pour les derniers bâtiments qui viennent d'être restaurés et livrés, ce sont de petits appartements, c'est-à-dire qu'il y a un espace bureau et un espace lit.
C'est très bien.
Voilà. Moi, j'ai seulement un bureau, mais il y a des hôtels tout autour du Sénat qui sont ravis de nous accueillir.
J'imagine sans peine. Vous avez une place tout en haut de l'hémicycle.
Oui.
Est-ce que ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la politique quotidienne ?
Forcément. Alors, on ne choisit pas ses places dans l'hémicycle. C'est géré par le groupe, par les services du Sénat. Je ne sais pas comment les places sont attribuées.
Mais vous êtes tout en haut et Éric Doligé tout en bas.
Et, ah ben oui, mais Éric Doligé, c'est un sénateur qui a beaucoup d'expérience. Et donc, c'est normal qu'il soit tout en bas.
Il a été élu en 2001 et 2011, je crois. Oui, c'est ça.
Oui.
2001 et 2011.
Oui.
Eh bien, écoutez, je pense que c'est vraiment certainement une vie absolument passionnante. Mais revenons à Serville. J'aimerais aborder avec vous, Madame de Seine, les nombreux travaux qui ont été réalisés dans votre commune ces dernières années, et notamment en ce qui concerne votre si belle église.
Travaux qui ont été réalisés après la tempête de 2000, donc
oui.
Voilà, pour une réception en 2003, 2004,
2005. C'était à Noël 99, et effectivement,
oui,
ça a été terrible,
oui.
cet ouragan en peigne. Il paraît que c'était des véritables tranchées. C'est épouvantable de voir tout ce qui a pu être abattu. Et puis, vous avez fait, entre autres, même après cette tempête, beaucoup de travaux dans cette commune.
Oui, un certain nombre, oui.
Est-ce que le château d'eau est détruit?
Oui. Depuis 2 ans, ça a été l'objet de pas mal de polémiques parce que un certain nombre d'habitants étaient attachés
à
au
sa
château
silhouette.
D'eau. Voilà, ça faisait partie de leur paysage. Mmh. Et pour les plus anciens, ils ont vu la construction du château d'eau.
Ah,
et
oui.
Ils se rappelaient, enfants, d'avoir dû aller chercher l'eau au puits. Et donc, ça a été un progrès considérable.
J'imagine.
D'avoir un château d'eau et d'avoir l'eau courante et d'avoir l'eau au robinet dans la cuisine. Donc, il y avait une espèce de nostalgie pour les plus anciens. Bon, donc voilà, il y a eu un petit peu de débat, un petit peu de polémique, des pétitions. Et puis une majorité, une très large majorité du conseil municipal a décidé de sa démolition. Il faut savoir que ce château d'eau n'était plus exploité depuis 7 ans, qu'il présentait des dangers parce que la couronne en béton se détachait par endroits, donc la responsabilité de la commune et de son maire était engagée.
Si ça tombe, ça fait météorite. Hein.
Exactement. Et le restaurer, ça supposait des frais conséquents pour un ouvrage qui n'avait pas forcément un caractère architectural exceptionnel.
Pas forcément.
Et qui ne présentait plus d'intérêt technique. Donc la décision a été prise de l'abattre. Et finalement, il ne manque pas au paysage. Et
ah,
plus personne n'en parle.
Oui, les choses s'arrangent forcément.
Voilà, voilà.
Et également, j'avais remarqué à l'époque, mais il y a quelques années déjà, d'énormes poteaux électriques. Vous aviez la très haute tension qui passait là.
Oui, oui.
Et ça passe toujours ou bien
alors,
vous avez pu enterrer les...
Ça passe toujours, mais c'est enfoui. Et pour environ 1,5 km de voie communale, nous avons également enfoui l'éclairage public, l'alimentation électrique pour les riverains et France Télécom. Ça veut dire que sur 1,5 km, il n'y a plus de fil du tout.
Formidable. Polanski pourrait venir tourner Tess chez vous.
Aucun problème, aucun problème. En fait, on a profité de l'installation de Ségurel qui avait besoin d'une alimentation électrique renforcée pour faire ses travaux d'enfouissement.
Je voulais vous parler de ce site absolument remarquable que tout le monde peut voir, évidemment, parce qu'il est effectivement...
En vitrine sur la Nationale, oui.
Sur la Nationale, sur la RN12, et tous les travaux sur la route de voirie qui ont été réalisés avec cette passerelle qui permet de ne pas traverser, ce qui est quand même un progrès considérable. Et ça a été très bien fait, c'est très joli finalement.
Oui, ça s'intègre
très
bien, la courbe est esthétique. Alors c'est vrai que c'était un véritable danger de traverser à niveau la Nationale 12. Donc cet échangeur, ce pont qu'on réclamait depuis des années, qui était inscrite au plan depuis plus de 20 ans, a fini par voir le jour. Bon, c'est un soulagement aussi bien pour Serville que pour Germainville,
bien sûr.
Mais c'est aussi faciliter l'accès à la Nationale 12 par les bretelles qui desservent Oudreux ou Paris. Et puis, pour notre zone d'activité, c'était quand même un plus, puisque ça permettait, au niveau de cet échangeur, les trafics des camions en particulier.
Ça a été un succès de convaincre l'entreprise Ségurel d'abandonner les Yvelines pour venir chez nous, non
Ça a été un petit peu compliqué, mais... Voilà, ils se sont installés. Alors, c'est pas sur le territoire de la commune de Serville, c'est sur le territoire de la commune de Germainville. Mais nous sommes voisins et c'est presque une enclave de Germainville. C'est vraiment à la limite.
C'est un peu le Vatican, quoi.
Oui.
Mais le maire de Germainville doit être ravi.
Ah oui, oui, oui. Alors, ça a été porté au départ par la communauté de communes des villages du Drouet.
Avec Michel Le Tuilier.
Avec
donc.
Michel Le Tuilier, que vous connaissez bien, qui a facilité l'implantation de cette entreprise. Et puis, dans le cadre de l'agglo du pays de Dreux, qui regroupe les 78 communes, la compétence a été reprise par l'agglomération.
Agglomération dont vous êtes vice-présidente.
Oui, en charge du développement durable.
Ah, c'est le moment ou jamais.
Oui,
là,
oui,
vous
oui.
Vous êtes dans le vent de l'histoire,
c'est,
ma chère.
voilà, c'est vraiment d'actualité et c'est le sujet dont on parle beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas un ayatollah du développement durable, mais il faut revenir à des choses simples. Et il faut, le développement durable, c'est quelque chose de transversal. Et on devrait se poser la question dans chaque projet que l'on peut porter. C'est à la fois simple et un petit peu et intelligent et un petit peu de bon sens, c'est-à-dire tâcher d'organiser notre société pour limiter les déplacements. Mais oui, tout le monde y retrouve son compte. Favoriser l'isolation des bâtiments pour réduire la consommation énergétique. Oui, voilà, favoriser les circulations douces. Bien sûr, quand on aménage des voies cyclables, des sentes piétonnières, en fait, ça favorise le développement durable, mais on facilite aussi la vie de nos concitoyens.
Qui devient beaucoup plus agréable.
Voilà, c'est plus agréable. Bon, je parlais tout à l'heure d'isolation des bâtiments, ça permet aussi de lutter contre la précarité énergétique. Pour nos concitoyens les plus modestes, c'est une part importante de leur budget qui passe dans l'énergie et dans le chauffage en particulier. Et on sait bien que quand on a un appartement ou une maison qui est mal isolée...
On chauffe les petits oiseaux.
On chauffe l'extérieur, voilà.
Bien sûr. La dernière fois que j'ai entendu parler de développement durable, c'était assez récemment d'ailleurs, avec Maud Fontenoy, qui s'est penchée sur la question et qui a une approche de l'écologie extrêmement particulière. Elle est très pragmatique.
Il faut...
Je crois que c'est une attitude qui convient d'avoir.
C'est vrai que c'est... Alors, bon, c'est en même temps de l'éducation. Je pense par exemple aux déchets. Trier les déchets, ça y est, c'est passé dans les mœurs. Par contre, quand on voit le long de nos routes des boîtes, je ne vais pas citer de marque, mais des boîtes de pizza, des canettes de bière,
la pollution visuelle,
des sacs plastiques, etc. On a encore du travail à faire.
Bien sûr. On y arrivera, vous y
Mais
arriverez.
On y arrivera, on y arrivera.
Puisque maintenant, vous êtes quand même décisionnaire.
Voilà, pareil pour la gestion de l'eau. Enfin, dans tous les domaines, en fait, on peut avoir des gestes éco-citoyens. On fait aussi de la formation auprès des enfants, des scolaires, parce que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Alors, on ne leur dit pas des choses extraordinaires, hein. On leur rappelle simplement des principes de bon sens. Par exemple, on quitte une pièce... On éteint la lumière. Je suis sûre que vous avez entendu ça dans votre jeunesse.
J'ai des partout dans la maison.
Voilà.
C'est vrai que à notre époque, nous sentions extrêmement concernés. C'est vrai que maintenant, on a l'impression qu'ils sont un petit peu plus laxistes.
Oui, parce qu'on est peut-être plus dans une société de consommation et c'est tellement facile maintenant d'avoir l'eau, d'avoir la chaleur, que finalement, on ne fait pas attention. Donc, on rappelle, par exemple, qu'il existe des réducteurs de pression pour les douches et que ça limite la consommation d'eau, qu'on peut fermer le robinet les trois minutes où on se brosse les dents, enfin, vous voyez, des gestes simples, mais ce sont nos meilleurs ambassadeurs parce que c'est eux qui reprennent leurs parents. Et moi, j'ai fait sur Serville des journées village propres avec les scolaires où on partait avec des pains, des sacs plastiques.
J'ai vu ça sur les plages, c'est
voilà,
très efficace.
On arpentait les 500 hectares de la commune.
Ah, quand même.
On pesait.
Ça fait une belle balade scolaire, oui. Ça dit donc.
Ça sensibilise les enfants et donc ça remonte à leur entourage, à leurs parents en particulier.
Bien sûr. Vous vous penchez aussi sur les nouvelles technologies comme les nouvelles ampoules.
Oui, aussi, nouvelles
ampoules. Qui ont eu quelques ratés au départ, peut-être que ça s'améliorera.
C'est à souhaiter en tout cas, parce que pour l'instant, ce n'est pas forcément très concluant. En tout cas, pour le consommateur, ils n'ont pas tous vu l'amélioration. C'est des ampoules qui coûtent 3 à 4 fois plus cher, mais qui n'ont pas forcément une durée de vie bien supérieure.
J'avais remarqué au début, dans les grands magasins, dans les supermarchés, il y avait des grands bacs avec déposer vos ampoules usagées, ce qui était tout à fait bien d'ailleurs. Et puis dans le même temps, il y avait dans le rayonnage des électricités, de l'électricité, des ampoules et tout ça, des ampoules qui étaient garanties 8 ans. Oui. Or, un mois plus tard, elles étaient déjà dans le bac de récupération. Alors je me dis là, vraiment,
oui.
C'est quand même très cher.
Oui. Sur la durée de vie, on nous a vendu la durée de vie. Je ne suis pas sûre encore que ces lampes en aient fait leur preuve.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Votre vie privée dans tout ça, ça donne quoi?
Alors c'est une aventure extraordinaire que je n'ai jamais imaginée, même dans mes rêves les plus fous. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, on ne peut s'engager que si on a l'accord de sa famille.
Oui.
Le consentement de son conjoint et de ses enfants. Parce que, d'abord, ils sont éventuellement exposés. Et puis, parce que ça désorganise quand même un petit peu la vie au quotidien.
Un petit peu.
Parce qu'on est, quand on est parisien ou parisienne, en ce qui me concerne, au moins 3 jours par semaine, eh bien, ça veut dire que, voilà, à Serville et à titre privé, la vie continue quand même, il faut s'organiser. Mais on y arrive, hein, c'est tout à fait compatible.
Votre mari prend en charge beaucoup de choses, j'imagine, de votre vie privée. Il fait la cuisine?
Peu. nous sommes très indépendants et nous avons toujours eu des centres d'intérêt variés et différents.
En tant qu'agriculteur, il était ancré à sa terre.
Voilà, mais moi aussi, j'ai les pieds, les bottes qui collent à la terre.
Je disais à mes filles que j'avais les 2 pieds dans la glèbe.
Voilà. Moi aussi, ça me colle aux bottes.
Mais ça n'empêche pas d'avoir la tête dans les étoiles.
Voilà, et ça n'empêche pas d'avoir d'autres centres d'intérêt. En plus, il faut casser cette image caricaturale de l'agriculture. Voilà, donc mon mari n'est pas particulièrement cuisinier. Quand je suis là, je tâche de lui préparer des petites choses qui peuvent se réchauffer facilement.
Vous avez des chevaux de bataille? La blanquette de veau, par exemple?
Non, pas trop. Enfin, je pense que je fais pas mal la blanquette de veau, mais c'est pas forcément ce qui le réjouit le plus. Mais par contre, il est capable tout à fait de faire cuire des nouilles, et parfaitement, al dente, une escalope, un beefsteak, voilà, éplucher une salade. C'est pas quelque chose qui l'impressionne. Hein, donc,
Et vous continuez à cuisiner?
Moi, parce que je suis gourmande et j'aime bien faire la cuisine. Voilà, c'est plus compliqué.
J'espère que je pourrai vous recevoir dans mon émission La cuisine de Marie et que vous me donnerez quelques petites recettes.
Avec plaisir.
Qui ne seront pas forcément des recettes politiques.
Non, ça sera une autre cuisine.
Voilà,
j'aime beaucoup la table, les plaisirs de la table, recevoir, faire la cuisine. Même si, comme toutes les femmes, je trouve que ça revient souvent parce qu'au quotidien, c'est 2 repas par jour. Que donc, à un moment, il faut s'y coller, et qu'il y a des fois où on a un petit peu moins envie. Mais
on peut réorganiser, il y a des bons congélateurs, on peut faire un gros plat qu'on sépare en petits paquets. Oui. Non, vous n'êtes pas pour.
Non, j'aime bien cuisiner frais.
Que du frais, voilà. Que du frais avec des produits locaux.
Avec des produits locaux, moi je fais 2 fois par semaine mon marché sur Dreux. Je vais au jardin d'Imbermais de temps en temps.
Vous n'avez quand même pas de potager à servir?
Non.
Ça, c'est lourd, ça.
Mon potager se réduit à un petit carré d'herbe aromatique.
Ah, elle est simple.
Voilà.
Formidable. Madame le sénateur, j'étais absolument ravie de vous recevoir. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Vous êtes absolument fantastique, je trouve, parce que vous êtes très enthousiaste. Vous aimez très visiblement tout ce que vous faites et votre vie est passionnante. Alors, merci de nous en faire partager tous les détours.
Un petit bout,
en tout cas. Et je vous souhaite énormément de bonnes choses pour la continuation de votre mission. C'en est une. Vous nous représentez tous et toutes et c'est absolument merveilleux de se retrouver à cette place et de pouvoir peser sur les décisions qui nous concernent, qui concernent notre quotidien. Et je vous en remercie beaucoup.
Merci beaucoup. C'est avec un plaisir renouvelé que je suis venue vous retrouver. Et on aura sûrement d'autres occasions de se croiser autour de ce micro ou ailleurs.
Chers auditeurs, au revoir. À bientôt. Cette émission a été enregistrée donc dans les studios de Dreux par Pierre Écart et a été réalisée par Émilie Glory. À bientôt. Au revoir.